scandale chez Facebook, encore, diront les mauvaises langues. Ben, quoi que, c'est pas tout à fait faux, hein. L'année 2018 se termine comme elle a commencé avec le scandale des données Cambridge Analytica. Vous vous souvenez de ça, là? Facebook avait propagé les données de, écoute, je pense que c'était 50 millions d'utilisateurs, quelque chose de complètement fou. Oui. Eh ben, c'est les photos de près de 6 millions d'utilisateurs de Facebook qui ont été exposées pendant une dizaine de jours au mois de septembre. Pour comprendre un peu ce qui s'est passé, on parle avec Steve Waterhouse, qui est expert en cybersécurité. Monsieur Waterhouse, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Alors, rappelez-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que les photos de près de 7 millions d'utilisateurs soient exposées comme celle-là?
Lorsque quelqu'un développe une application, lorsqu'on télécharge dans nos profils Facebook pour soit jouer aux cartes ou voir l'astrologie de demain, n'importe quelle application comme ça, il y a des fois qu'on peut se faire demander d'autoriser Facebook à échanger avec une application, que ce soit dans Facebook ou même à l'extérieur. Ouais. Et l'élément de programmation a été développé pour, à ce moment-là, faciliter l'accès à des photos. Je te donne aussi un exemple facile, puisque on va au restaurant, on veut faire une évaluation, un rapport sur comment est-ce qu'on a aimé le restaurant, prendre une photo de l'assiette, d'ambiance, et après ça, on envoie ça dans notre profil Facebook. Donc, l'autorisation venait, en principe, de dire juste la photo, on donne accès pour qu'elle puisse être publiée, alors qu'il y a 1500 applications utilisé par pas loin de 876 développeurs qui avaient une faille, justement, qui donnait à ce moment-là accès à toutes les photos durant cette période-là. Donc, pendant ces 10 jours, les développeurs avaient accès à toutes les banques de photos, et ce, même les photos qui n'étaient pas publiées, donc on voulait se garder privé.
Juste pour être sûr de bien comprendre, M. Waterhouse, ces applications-là qui nous demandent de se créer un compte, par exemple, puis là, au lieu de tout rentrer les données une par une, on a aussi l'option de faire se connecter avec Facebook. Puis là, l'application, à ce moment-là, va chercher dans Facebook certaines de nos informations pour créer le compte plus rapidement. Dans le fond, c'est ça?
Il y a, entre autres, cette fonctionnalité-là, exactement. Puis c'est ça qui est un petit peu tannant, parce que on appelle ça donc une authentification par un tiers. Ouais. Et c'est d'utiliser des plateformes, que ce soit Google, que ce soit Facebook, pour justement se faciliter la vie. Or, lorsqu'il y a passage d'informations pour se faire authentifier correctement, comme tu le décris, c'est là qu'est l'enjeu, que ça se pourrait qu'en arrière, ben la mécanique n'est pas à jour comme ça a été rapporté pour ce cas-là.
Steve, est-ce que c'est vrai que, en tout cas, on m'a rapporté ça, moi je l'ai pas vu, mais que ce bug-là de photos dans Facebook fait en sorte que ta photo de profil, tu ressembles à Brad Pitt?
Je ne sais vraiment pas celle-là. Ça se pourrait, mais écoute, il n'y a rien qui est impossible.
Mais concrètement, pour les gens qui peut-être craignent de s'être fait pirater ou que leur photo ait été exposée, moi, c'est que je pensais que quand tu publiais une photo sur Facebook, elle devenait un peu la propriété de Facebook, où tu perdais un peu tes droits. Alors, je suis surpris de voir que ça fasse vraiment scandale que des photos aient circulé, mais j'ai-tu raison de penser que quand tu publies une photo sur ces réseaux sociaux, tu te dissocies un peu des droits par rapport à cette photo-là?
Tu as raison là-dessus, Paul-Raphaël, parce que c'est dans les petits caractères de contrat, c'est vrai qu'ils en prennent la possession. Cependant, dans un objectif de respect de la vie privée des gens, Facebook s'engage à dire que ben, si c'est votre profil, c'est vos photos, vous donnez les droits à qui vous voulez des faire visualiser. Il reste cependant que Facebook, encore là, avec la merveilleuse année qu'ils ont eue, ils n'ont pas intérêt à dire que non, ça nous appartient, on peut faire ce qu'on veut. Ça, là, c'est clair que ça peut lui faire bien du mal. Cependant, je veux pas être défaitiste, mais c'est juste 6,8 millions de personnes affectées sur 2 milliards. Ouais. Si on regarde ça d'une autre façon, c'est pas grand-chose, mais il reste qu'avec l'impact médiatique qu'a eu Facebook cette année, ils peuvent pas se permettre de dire non, ça c'est pas grave, on passe ça puis on continue. Au contraire, les gens, je crois qu'ils s'attendent à avoir une certaine vie privée à l'intérieur, mais il faut juste, comme tu dis, rester conscient que c'est quand même de considérer de l'espace public, et du jour au lendemain, la compagnie peut décider de changer les conditions et ça lui appartient. Je veux dire, il y a pas aucun gouvernement qui peut lui dire non, fais pas ça comme ça. Ça appartient à une entreprise privée, ouais. Ça demeure comme ça.
Ah, puis pour juste rajouter, Steve, là-dessus, la réalité, c'est que l'expression « mon compte Facebook », ça n'existe pas. Tout appartient à Facebook. Ouais. C'est gratuit, c'est tout, c'est terminé. Demain, ils peuvent le fermer, ton compte. T'sais, comprends-tu? Il ne faut jamais oublier que quand on dit...
Google Plus, qui vient d'arriver, il y a 2 semaines, non?
Oui.
Google Plus avait dit nous autres, là, ça ne marche pas, c'est quelque chose qui ne cadre plus dans notre façon de faire. On ferme ça au mois d'août. Il y a une grosse faille de sécurité qui a été déclarée cette semaine. Que là, ils ont dit, oups, on va le fermer au mois d'avril à la place Google Plus, au lieu que ce soit au mois d'août. Fait que, exactement, juste pour appuyer qu'est-ce que t'apportes, là. Mm.
Monsieur Waterhouse, je veux qu'on parle brièvement du fameux 5G, cette nouvelle technologie de... Écoute, j'ai même de la misère à le définir, là. C'est quoi le 5G en soi? C'est une technologie pour diffuser les ondes cellulaires ou quoi? C'est...
Oui, c'est bien ça, Paul Raphaël. C'est la prochaine génération. On va dire, on a évolué avec la cellulaire. Le cellulaire, c'est-à-dire avec le 2G, 3G. Maintenant, on travaille présentement avec du 4G LTE. Et ce qui fait en sorte que ça, la prochaine génération va être 50 à 100 fois plus rapide, juste pour donner une caractéristique. Et après coup, ça se veut de viser vraiment, de définir la réseautique pour tout ce qui se transige, tout ce qui se travaille dans notre quotidien, dans notre collectivité. Ce qui veut dire que quand on parle souvent des projets futuristiques d'amener des voitures qui se conduisent tout seules, que ce soit aussi des applications aussi banales que... par comment être dans une ville ou des lumières de circulation, mais tout ça va être relié, ouais. Pas par un réseau imaginaire, mais vraiment par ce réseau cellulaire qui va être implanté davantage dans les zones urbaines, évidemment, pour commencer, et ça va s'expandre un peu plus loin en région. L'idée, c'est de par 2020 que cette nouvelle génération de connectivité soit mise en disponibilité un peu partout.
Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est une technologie qui est assez redouté, en fait. Pourquoi les gens redoutent le 5G comme ça?
Ben, c'est pas la technologie comme telle, Paul Raphaël, c'est surtout l'enjeu avec Huawei, qui, ouais. Elle, est une compagnie chinoise qui se veut, et qui veut, évidemment, n'importe quelle entreprise veut compétitionner pour avoir le marché. Et Huawei étant le deuxième fabricant au monde, il y a quand même un bon levier pour négocier. L'enjeu, c'est que cette compagnie chinoise a des liens très étroits avec l'hiérarchie du Parti communiste en Chine. Et qui dit Parti communiste dit à ce moment-là, même si c'est une entreprise qu'on dit privée, bien, ça n'existe pas en Chine. Une entreprise qui fait affaire sur le monde, c'est une entreprise qui a eu l'autorisation du gouvernement et par cette autorisation-là vient un retour sur investissement. Et ce que ça veut dire, c'est que ça donne une capacité pas l'entreprise, mais plutôt au gouvernement chinois, de mettre les mains avec la technologie dans les pays où ce qui est installé. Et ça a été prouvé à travers le temps que le gouvernement chinois se gênera pas, ils vont aller se mettre les mains dans la technologie pour être capable d'aller en retirer des bénéfices de pas de vol de propriété d'intellectuels. Puis ça remonte jusqu'à nous autres, là, l'impact direct qu'on a eu de ce genre d'opération-là, ben ça va directement en lien avec la descente de Nortel dans les années 2000.
OK, merci beaucoup, M. Waterhouse.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Ou aussi expert en nous faire peur où le matin à Que Québec se lève.